tous, nous sommes le lundi 21 juin 2021, il est 20h, bienvenue dans Football Total pour un nouveau numéro. Avec moi ce soir, Jordan, Johan, Dorian. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Vincent.
Au sommaire ce soir, retour sur le début d'Euro de l'équipe de France avec la victoire contre l'Allemagne et le match nul contre la Hongrie. Puis on analysera plus généralement ce début de compétition. Quelle équipe vous a surpris, séduit, déçu ? Réponse dans un instant. L'Espagne est-elle l'équipe la plus décevante de cet Euro ? Analyse de l'équipe dans cette émission. Et puis on reviendra sur une interview du milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara dans l'équipe ce week-end où il déclare haïr le football moderne. On vous détaillera ça. Enfin, on vous présentera les deux matchs qui débutent à 21h, Finlande-Belgique et Russie-Danemark, avant de faire un point sur l'actu en bref et de finir par le quiz et les pronos. Football Total, ça commence maintenant. Mais avant de démarrer cette émission, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quitté samedi, Philippe, alias Philousport sur Twitter, atteint de myopathie. Il partageait sur ce réseau réputé tellement cruel une dose de bienveillance lorsqu'il parlait de sport, sa passion. Il était derrière l'OM, derrière l'équipe de France ou encore derrière Martin Fourcade par exemple. Ce week-end, il a réussi à rassembler Twitter pour lui rendre un dernier hommage. Cette émission lui est dédiée ce soir et nous avons une pensée pour sa famille et pour ses proches. On va démarrer avec l'équipe de France qui a débuté son Euro mardi dernier avec une victoire 1-0 contre l'Allemagne et qui a enchaîné ensuite avec un match nul, un but partout face à la Hongrie. Comment vous la sentez cette équipe de France dans ce début d'Euro ? On va commencer par Dorian.
Moi, je pense que, comme on l'a dit avant l'émission, on a pas de dispositif vraiment acquis, entre guillemets. Je pense qu'on doit encore faire nos preuves, surtout offensivement. On a de grosses lacunes de transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Et après, c'est un avis purement personnel, mais je pense que ça s'améliorerait si on aurait un dispositif avec des ailiers et un 10 qui fait un travail de 10. Malgré que Griezmann soit dans cette position dans le 4-4-2 en losange, je pense que ce qui nous fait tort, c'est qu'il défend trop. Il défend beaucoup trop, il joue comme quand il était à l'Atlético Madrid. C'est bien, parce que défensivement, il est très solide, mais ça manque d'un joueur en attaque.
Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord, Vincent. Je ne sais pas si on m'entend bien, je n'ai pas le retour.
Oui, on t'entend,
Ok, parfait. Donc moi, je trouve personnellement que la France a une taille patron. C'est peut-être l'équipe qui m'a le plus impressionné en première période contre l'Allemagne de 7 euros. C'est-à-dire que défensivement, ils sont au top et offensivement, vu les joueurs de talent qu'il y a devant, il peut se passer une action en une fraction de seconde. Et je pense personnellement que les rassemblements en sélection, t'as pas forcément trop le temps de travailler un schéma tactique et de travailler un dispositif. Je pense que Deschamps s'adapte parfaitement et avec le plus grand des pragmatismes des talents qui composent son équipe et qui les fait jouer assez bien ensemble. Après, c'est sûr que quand on a une grosse équipe en face, quand tout le monde est concentré et quand tout le monde est impliqué, on voit une bien plus belle équipe de France. Mais le résultat de la Hongrie, on en parlera tout à l'heure, ne m'a pas inquiété.
Bah moi, je vais plutôt être un peu entre les propos de Dorian et Jordan. C'est que sur le match, enfin, je vais faire chronologiquement, sur le match de l'Allemagne, avec le retour de Benzema et avec ce qu'on a un peu vu des matchs de préparation, on s'attendait, enfin personnellement, moi je m'attendais quand même à voir une équipe de France 2018, version un peu plus joueuse, un peu plus efficace et un peu plus, non pas forcément efficace, mais plutôt un peu plus harmonieuse offensivement, avec un peu plus d'intention offensive. Sur la première mi-temps de l'Allemagne, j'ai été très surpris par l'équipe de France. J'ai vu une première mi-temps franchement qui m'a assez bluffé, avec quelques mouvements de balle vraiment, vraiment séduisants. Et en deuxième mi-temps, on a revu l'équipe de France 2018 de Deschamps, c'est-à-dire la meilleure équipe du monde en fait depuis maintenant 2 ans en compétition. Une équipe injouable tactiquement, avec une défense tellement solide qu'on avait l'impression que les Allemands pouvaient se casser les dents sur le bloc français pendant encore une heure et qu'ils n'allaient pas pouvoir marquer. Donc assez rassuré après ce premier match contre l'Allemagne, parce que on a vu une équipe de France avec un peu plus d'espoir de jeu sur cette première mi-temps et des grosses satisfactions défensives sur la deuxième. Sur le match de la Hongrie, maintenant, moi, j'attendais quand même de voir autre chose, surtout offensivement. Là, c'est là où je rejoins ce que disait Dorian, c'est qu'on attend quand même un peu mieux de la complémentarité des trois de devant. Alors évidemment, Benzema n'a que 2-3 matchs dans les jambes avec ce groupe, et forcément, ça va aller de mieux en mieux, j'espère, pour lui. Mais on l'a quand même vu très, très, très crispé et très loin du Benzema qu'on a vu cette saison. On sent qu'il n'est pas encore libéré dans son jeu, qu'il n'a pas encore tout à fait trouvé sa place. Griezmann défend beaucoup, comme disait Dorian, et il est aussi relégué un peu plus sur le côté avec ce dispositif. Moi, je le trouve encore et toujours vraiment très très fort. Je ne pense pas que ce soit vraiment de lui que vienne le problème de cette équipe. Après, voilà, c'est pour ça que je rejoins un peu les propos de Jordan et de Dorian, parce que je ne suis pas non plus alarmé. Voilà, ça reste des petits ajustements. On sait que contre les blocs bas, cette équipe, elle a du mal à faire le jeu, qu'elle n'est pas dans sa position idéale. Mais pour autant, je suis encore très serein. Voilà, il n'y a rien de grave. Ça reste un match nul contre la Hongrie, évidemment qu'on s'attendait à mieux. Mais je sais que voilà, dans tous les cas, cette équipe reste un redoutable en phase finale, et que si les trois de devant commencent à trouver un peu plus de complicité et d'efficacité sur le terrain, là, oui, c'est clair qu'il n'y aura pratiquement aucune chance pour les autres nations.
Alors, pour le coup, moi, je pense qu'en tant que champion du monde en titre, dans notre malheur du groupe de la mort, c'est peut-être notre plus grande chance de tomber avec le Portugal et l'Allemagne pour pouvoir se préparer aux phases finales, si on y va, et j'espère qu'on va y aller. Après, la Hongrie, c'était surtout pour moi un match piège, un match qu'il ne fallait pas perdre, parce que au vu des deux d'à côté, on ne pouvait pas se permettre de prendre 0 point. Mais je ne suis pas forcément inquiet face à des grandes équipes qui peuvent jouer en bloc bas, pour le coup.
Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de mal, cette équipe. Après, dans le malheur de l'équipe de France, entre guillemets, comme tu dis, c'est que quand on va arriver sur les phases finales, on va très probablement affronter des équipes qui ne fermeront pas le jeu autant que la Hongrie l'ont fait, même contre le Portugal ce mercredi. Quand l'équipe de France a des espaces, on sait qu'elle va faire mal. Pour autant, voilà, moi, s'il y a vraiment un petit bémol à mettre sur ces deux premières journées, c'est que voilà, on a encore pas suffisamment de certitude offensive pour être vraiment totalement serein contre n'importe quel adversaire.
Moi, ce qui me fait un peu peur, pour le coup, c'est le match en huitième de finale. On sait qu'on va pas rencontrer une top nation, et j'ai peur que cette équipe en question n'ait pas forcément les ambitions d'aller jouer plus haut face à l'équipe de France, et qu'on se fasse éliminer sur un coup de hasard ou un hold-up.
C'est que les autres équipes aussi, elles nous voient. Et c'est que les autres équipes, elles ont aussi vu ce match contre la Hongrie, et elles ont vu le match contre l'Allemagne, et elles voient très bien que cette équipe de France, c'est quand elle n'a pas le ballon qu'elle est la meilleure, finalement. C'est qu'elle va t'attendre, tu vas te casser les dents sur son bloc, et derrière, elle va t'ouvrir en deux sur les transitions, parce qu'elle a des joueurs phénoménaux dans ces secteurs-là. Voilà, sans parler forcément de Mbappé, qui est le meilleur joueur de transition du monde, je pense, largement. Il y a des joueurs qui sont parfaits dans ce système. Voilà, Pogba au milieu, même Kanté, Benzema qui facilite. Donc les équipes, elles ont vu ce match, et je pense que du coup, si moi aujourd'hui je suis belge, ou je suis néerlandais, ou je suis italien, je m'attends à affronter la France pour un quart ou un huitième ou que sais-je, je vais considérer quand même essayer de reculer, de leur laisser la balle, parce qu'en fait c'est peut-être le meilleur moyen de faire trembler cette équipe finalement.
Alors Jordan, tu parlais des huitièmes de finale, je vais vous rappeler les cas de figure éventuels. Si l'équipe de France finit première de son groupe, ça serait a priori la Suisse, l'Ukraine ou le Danemark. Si elle finit deuxième de son groupe, ça serait contre le premier du groupe D, donc a priori peut-être l'Angleterre. Et si c'est la troisième position, ça serait a priori les Pays-Bas ou la Belgique.
Honnêtement, moi, je préférerais taper en huitième l'Angleterre, la Belgique ou
je suis assez d'accord. Moi, je suis plus rassuré.
Pour rester dans le rythme et pour être dans le bain des phases finales, pour moi, le premier match de phase finale, ça doit être une top nation.
Et même d'un point de vue physionomie, je trouve que moi, je suis plus rassuré de voir l'équipe de France jouer contre un gros.
Ah oui, aussi, clairement.
La France est meilleure contre les grosses nations, en fait, que contre les nations où elle est censée vraiment prendre l'ascendant et être meilleure. Donc je serais limite plus rassuré de voir cette équipe de France. Dans tous les cas, on est quand même dans la mesure de dire qu'il n'y a aucun réel adversaire qui aujourd'hui nous fait trembler, même si on a vu des équipes impressionnantes en phase de poule. Je pense à l'Italie forcément, même à l'Allemagne.
Même à la Hongrie, ils ont fait leur match. Ils ont été courageux.
Ils ont fait leur match, mais en tous les cas, il n'y a pas vraiment d'équipe qui peut nous faire peur. Après, ça reste un tournoi et des chances sur ce genre de d'échéance, et sur des phases finales, on sait que il sait nous faire gagner. Donc moi, je suis pas réellement inquiet pour cette équipe, en tout cas.
Et on va revenir sur l'information de la journée, c'est l'absence d'Ousmane Dembélé, blessé au genou et a priori aussi à la cuisse, ça sera un problème musculaire. C'est une grosse perte pour l'équipe de France ?
Non, je dirais pas ça quand même. Je dirais pas ça parce qu'il n'a pas souvent été titulaire en équipe de France, même ces dernières années, même en amical. Il n'a pas été titulaire à la Coupe du Monde et on a déjà notre attaque. Donc sur le côté, on a Coman. On a des joueurs qui peuvent le remplacer. Bien sûr que c'est une grande perte parce que Dembélé, ça reste Dembélé, mais on peut faire ça avec tout l'effectif qu'on a.
Oui, voilà, c'est que voilà, Dembélé, bon, ça reste un joueur, un très très bon joueur, mais vu la profondeur d'effectif de l'équipe de France, on peut pas dire que ce soit un réel coup dur, même si évidemment en sortie de banc, il peut faire du bien. Après, on a aussi on reste un peu sur la note de sa rentrée contre la Hongrie qui a pas été bonne du tout. Donc forcément, c'est un peu triste parce que je pense qu'en termes d'ambiance et de cohésion d'équipe, ça restait un joueur important parce que il garantissait quand même la bonne humeur du groupe, etc. Mais comme disait Jordan, on a quand même des joueurs qui peuvent faire son boulot de super sub. Je pense à Coman notamment. Donc c'est pas réellement une énorme perte, même si ça fait de la peine pour le joueur.
Je suis assez d'accord avec vous dans le sens où c'est vraiment pas une grosse perte pour le groupe. Après, je pense que personnellement, lui, ça doit bien l'atteindre parce qu'on lui a reproché pendant des années de son hygiène de vie qui était un peu bancale. Il arrivait en retard aux entraînements. Il avait à côté de ça, il faisait pas attention à lui, tout ça. Et j'ai l'impression que depuis la dernière année, ça s'est calmé.
Ouais, sur les derniers mois, c'était mieux là, avec le Barça.
Il est devenu vraiment professionnel, il s'est impliqué dans la vie au Barça. Et
il était bien revenu avec le Barça, il avait enchaîné les matchs, ça commençait à être un peu mieux. Voilà, après. Ça fait partie de la vie d'un professionnel et je pense qu'il reviendra, il est jeune et voilà.
Oui, bien sûr, il y a encore le temps.
On va rester dans cet euro. C'est quoi l'équipe, on va quitter un petit peu l'équipe de France, qui vous a le plus surpris dans cet euro pour l'instant ? Dorian ?
L'Italie, sans faute en poule.
Johan ?
J'ai envie de dire l'Italie aussi, j'ai bien été impressionné par les Pays-Bas encore qui ont gagné tout à l'heure.
Jordan ?
L'Allemagne.
L'Allemagne. On va commencer
par l'Allemagne ?
On va commencer par l'Italie. Dorian.
On s'en fout en poule, un niveau de jeu incroyable. Je pense pas qu'il y ait de points noirs à relever dans l'équipe. Un milieu de terrain, ils peuvent même, enfin, pour pouvoir se passer de Verratti, c'est incroyable. Et au-delà de ça, ils avaient un groupe un peu moins difficile que le nôtre, mais la performance est quand même.
Il y avait quand même Suisse, Turquie, Pays de Galles. C'était pas le plus facile. Hein.
Oui, sur le papier, non. Après,
sur le papier, après la Turquie.
Voilà,
bon.
C'est ce que j'allais dire. Vu le niveau de la Turquie, c'était pas. Le groupe, on peut dire ce qu'on veut. Beaucoup de gens, même moi, j'attends de voir cette équipe d'Italie contre une grosse nation pour confirmer. Pour autant, je pense pas qu'on les attendait quand même à ce niveau-là, sur un match de poule, à finir premier sans encaisser un seul but. On voyait un peu.
Un seul but,
ouais, peut-être, je sais plus.
Hier, je crois.
Ils ont pris prestation quand même très, très, très impressionnante. Avant l'Euro, je voyais un peu l'Italie, un peu entre deux, avec la fin de la génération Bonucci, Chiellini, qui arrive un peu sur les talons, et en même temps l'arrivée de jeunes talents, mais qui sont pas encore non plus des joueurs confirmés d'un point de vue international, etc. Et là, on a vu une équipe dirigée par Mancini, franchement, qui fait un boulot incroyable, avec toujours une assise défensive impressionnante, et surtout du jeu, quoi. Il y a des joueurs, franchement, on pense évidemment à Locatelli parce qu'on a vu son match. C'est ça joue au foot, il y a du Barella qui a fait une grande saison, Insigne c'est très fort aussi, ils ont aussi des joueurs en sortie de banc comme Chiesa, etc. Donc il faudra compter sur eux, ils nous ont montré que ils seront encore là et hâte de les voir contre une grosse nation parce que ça peut nous faire des très belles affiches.
Alors l'Italie qui jouera contre l'Autriche en 8e de finale, ce sera samedi soir à 21h.
Largement favori pour le coup.
Tu parlais des Pays-Bas, Johan.
Ouais, j'ai bien aimé cette équipe des Pays-Bas. Déjà, ils nous ont offert pour moi le premier vrai bon match de cet Euro
contre l'Ukraine.
Contre l'Ukraine, ouais, le 3-2. Où en plus, ils n'avaient pas encore enregistré le retour de De Ligt, qui est revenu là récemment et qui leur fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup cette équipe parce que les Pays-Bas, ils ont toujours eu ce côté historique un peu de nous enchanter, de jouer au foot, etc. Et là, on voit encore dans le jeu de cette équipe et dans les schémas et dans les intentions que ça cherche à jouer au ballon. Et il y a des individualités aussi qui ressortent. Je pense notamment au début de tournoi de Frenkie de Jong qui est juste dans la lignée de sa fin de saison avec le Barça qui m'enchante, exceptionnel. Même Wijnaldum encore, qui a encore marqué un doublé, je crois, là, juste avant qu'on prenne l'émission, qui est vraiment aussi sur une bonne pente. Il y a Memphis qui sort d'une grande saison avec Lyon. Je trouve qu'ils ont des individualités très fortes, même en défense. Hein, quand tu vois la charnière De Ligt, De Vrij, ça rigole pas. Donc pareil que l'Italie, j'ai hâte de voir vraiment arriver en phase finale contre un gros. Et vraiment, ça va nous offrir de belles affiches, hein, je pense. En phase finale, il y a moyen qu'on se régale vraiment.
Alors tu l'évoquais, donc on va le donner, ces deux résultats qui se sont terminés il y a quelques minutes dans le groupe C, puisque l'Autriche s'est imposée 1-0 face à l'Ukraine et les Pays-Bas ont battu la Macédoine du Nord 3-0. Donc les Pays-Bas, sans surprise, premier du groupe devant l'Autriche, deuxième, l'Ukraine, troisième et la Macédoine du Nord, et quatrième, donc la Macédoine du Nord, éliminée de 7 euros, sans surprise également. Jordan, tu abordais l'Allemagne tout à l'heure.
Oui, j'ai abordé l'Allemagne. J'aurais très bien pu dire l'Italie comme mes collègues, parce que, au vu de leur non-participation à la Coupe du Monde et de leur dernière compétition internationale. Mais j'ai dit l'Allemagne parce que j'avais été très déçu de leur Coupe du Monde et de leur confrontation surtout contre la Corée du Sud, où ils ne passent pas les groupes, il me semble. L'Euro 2016, ils sortent en quart contre l'Italie.
Non, ils sortent en demi contre nous.
Contre la France. Oui, en demi contre nous, excusez-moi, j'ai confondu. Mais oui, en fait, je sais que le problème en Allemagne, c'était surtout une génération vieillissante. Et je trouve qu'ils ont réussi à implémenter des jeunes joueurs et à garder un groupe assez uni tout en rappelant Müller. Et bon, voilà, je pense que c'est aussi une équipe sans neuf qui va avoir du mal qui va devoir marquer des buts via son animation offensive, mais qui ne pourra pas marquer des buts sur une attaque placée.
Ah si, quand même. Là, je suis pas d'accord.
Non, mais sur un point de fixation fixe.
Ah oui.
Dans
après, c'est un peu la tendance de ce qu'on a vu cette saison. Quand on a vu par exemple la saison de City avec pas de réel numéro 9 de surface, là, l'Allemagne me fait un peu penser à ça dans l'animation. Et j'ai trouvé justement, t'en parlais, Havertz dans ce rôle un peu de faux neuf, un peu à la finition, etc. J'ai trouvé très brillant et je pense même que l'avenir de ce garçon est plutôt à ce poste, même qu'attaquant de soutien ou sur un côté. Et moi, ouais, c'est vrai que l'Allemagne, on les attendait pas. Bon, évidemment, il faut toujours compter sur eux, mais ils n'arrivaient pas non plus avec ce statut de grand favori, de cador, comme ça a pu l'être en 2018, par exemple. Donc, je comprends que tu les mettes aussi dans les surprises. Après, moi, pour autant, je ne suis pas forcément surpris parce que...
ça reste une top nation.
Voilà, ça reste une top nation. Et quand on voit la qualité du groupe, après, on pouvait avoir des interrogations, notamment défensives, où voilà, il y a encore Hummels qui traîne sa caravane et qui est toujours titulaire dans cette équipe. Mais ils ont quand même des joueurs d'un talent incroyable. Quoi. Quand tu vois le milieu de terrain et quand tu vois qu'ils se permettent de mettre Kimmich sur le côté, parce qu'il y a Kroos, Gundogan dans l'axe, c'est quelque chose. Et contre la France, je les ai trouvés vraiment intéressants, même s'ils avaient quand même manqué ce dernier geste, parce qu'ils sont aussi tombés sur un bloc impassable. Mais ils ont confirmé en tout cas ce qu'on a vu contre la France, que c'était vraiment top 3 des équipes du tournoi facilement. Quoi.
Ouais, ils ont continué sur la même lignée contre le Portugal, sauf que c'était pas du tout la même défense. Et on l'a bien vu, je pense qu'après la France, c'est l'équipe la plus forte du tournoi.
Il y a une équipe qui pouvait faire partie des favoris ou des outsiders et qu'on n'a pas cité depuis le début de l'émission, c'est l'Espagne. L'Espagne, est-ce que c'est justement le favori le plus décevant de l'Euro ?
Oui et non, parce que on sait, je suis allé en Espagne pour voir la sélection d'un ami. C'est personnel, mais en tout cas, j'ai pu voir leur culture foot et c'est vraiment via le jeu de passe et le jeu de possession. Et toujours est-il qu'on peut dire ce qu'on veut, mais ces dernières années, ce n'est pas la possession qui gagne, c'est plus les attaques en transition et les contre-attaques. Donc non, ça ne me surprend pas parce qu'ils ont cette culture, à l'école de foot, ils travaillent la possession. Peut-être que ça reviendra un jour, mais en tout cas, ce n'est pas la manière la plus efficace pour remporter ces matchs.
Mais pour le coup, moi, sur cette équipe d'Espagne, évidemment, au bout d'un moment, quand on fait les comptes, on voit qu'ils sont un peu en galère dans leur groupe. Et forcément, c'est décevant et c'est à juste titre qu'on peut un peu leur tomber dessus. Mais sur le contenu des matchs, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt pas mal joué. Mais le problème qu'ils ont, et on pouvait déjà le souligner quand on voyait la liste avant même le début de la compétition, c'est que le potentiel offensif, il est vraiment pas au niveau d'une nation comme l'Espagne. C'est que voilà, on a connu des Fernando Torres, des David Villa, on a connu des Raúl, on a connu des grands attaquants. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands attaquants dans cette liste d'Espagne. Morata fait ce qu'il peut, il est en grande difficulté. Ils doivent compter sur un Gérard Moreno qui a fait une fantastique saison avec Villarreal, mais qui ne connaît pas encore une compétition internationale et le football de sélection et qui n'est pas encore non plus un grand joueur confirmé. Il y a des mecs comme Dani Olmo, etc., qui sont des bons joueurs. Hein. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais ça manque quand même d'un grand neuf et d'un grand attaquant. Et ça manque aussi de joueurs de profondeur, je trouve. C'est que cette équipe, elle c'est comme disait Jordan, c'est le jeu court, c'est la possession. Quoi. Mais il manque aujourd'hui. Par exemple, je pense que cette équipe-là, avec un Ansu Fati en forme, je pense que ça change la donne. Parce qu'ils ont beaucoup de profils similaires. Ils ont des joueurs qui jouent dans l'axe, qui redoublent les passes, qui jouent les petits espaces, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, ça manque de tranchant. Mais pour autant, j'ai pas trouvé que c'était vraiment mauvais dans le contenu. Il y a eu des belles choses, notamment Pedri qui continue sa progression. On a vu des matchs voilà, où ils ont eu les occasions. Hein. Je me souviens du match, c'est contre la Suède, je crois, où ils en ont beaucoup. Voilà, il manque d'efficacité cruelle et il manque d'attaquants, mais voilà, c'est le problème de voilà, c'est une transition générationnelle de ce point de vue là quoi.
Mais ça se ressent, hein. Un but en deux matchs, nuls 0-0 contre la Suède et un partout contre la Pologne. Les Espagnols qui vont jouer la Slovaquie mercredi, les Espagnols, vous les voyez quand même passer les poules?
Bah, je pense qu'ils vont s'en sortir un peu ric-rac. En plus, là, avec ce format de meilleur troisième, ça donne une chance en plus de sortir des poules, donc je pense qu'ils vont quand même s'en sortir. Sur les phases finales, s'ils veulent vraiment aller chercher un résultat, il va falloir réussir à être efficace, quoi, parce que là, c'est pas possible. Morata, franchement, c'est très très compliqué. Hein.
Dorian,
je suis d'accord avec ce que disait Johan, surtout sur le contenu du jeu de l'Espagne. On peut leur tomber dessus sur les résultats, mais pas tellement sur le contenu. Et comme tu le disais, ouais. Il manque d'un tueur, en fait.
Ouais, c'est ça, parce que dans le jeu, vraiment, moi, j'ai vu des choses intéressantes.
Hein, même les occasions, ils les ont.
Ouais, c'est ça. Ils arrivent à se créer les occasions.
La finition, elle est inexistante. Ouais, c'est l'éternel problème de Morata, j'ai envie de dire, parce que quand tu regardes partout où il est passé.
Bah, il est passé par les plus grands clubs du monde, ouais. Et il a jamais réussi à s'imposer vraiment comme un buteur important sur une saison.
C'est clair qu'il n'y a aucun des clubs dans lesquels il est passé où les supporters vont s'en souvenir en tant que magnifique.
Ouais, il a un très très bon agent, Morata. Hein,
bah oui, ouais, c'est ça.
Mais oui, je les vois quand même passer les poules. Je pense qu'ils vont peut-être avoir un sursaut d'orgueil sur le dernier match de poule et au pire des cas finir meilleur troisième si ce n'est pas le cas.
Bah pour moi, c'est plus un grand d'Europe. Hein,
ah non, mais j'ai jamais dit ça. Je pense que c'est décevant. On les attendait un peu plus haut, mais ils vont quand même aller en phase éliminatoire.
Faut faire attention,
mais c'est pas surprenant. En fait.
Faut faire attention aussi à la vérité de la phase de poule. C'est qu'il faut pas non plus énormément se baser là-dessus. Combien de fois on a vu des équipes avoir vraiment du mal en phase de poule,
ouais, contre la Russie, c'était les mêmes problèmes en 8e.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu énormément d'équipes qui, pendant les phases de poule, ont montré des lacunes et qui, au final, se sont révélées un peu en phase finale. Donc attention à ça. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, s'ils tombent contre une équipe un peu plus grosse en termes de standing, je pense à Belgique, Italie, même Pays-Bas. Je les vois mal réussir à passer avec les lacunes qu'ils ont.
On va rester en Espagne avec une interview, pour rien vous cacher, que tu nous as fait découvrir ce week-end, Johan. Une interview de Thiago Alcantara, le milieu de terrain espagnol et de Liverpool, qui s'est exprimé dans une interview à l'équipe. Il y rend notamment hommage à son sélectionneur Luis Enrique, qui a, je cite, « le positionnement très analytique de Guardiola et l'agressivité du jeu de Jürgen Klopp, mais il prend position formellement contre les nouvelles règles arrivées depuis peu. Concernant les 5 changements mis en place après le Covid, il explique « ils sont importants étant donné la situation du Covid, mais je préfère comme c'était avant. Ils font que les équipes ne sont maintenant plus jamais fatiguées. Les équipes qui défendent le feront jusqu'à la 93e minute. Les équipes qui te pressent pourront le faire tout le match. » Et à propos du VAR, il affirme « j'ai toujours été contre et j'aimerais qu'il n'y en ait plus. Ça t'enlève l'essence du jeu, ça enlève la roublardise, la malice qui fait partie du football, tant que tu ne fais de mal à personne, évidemment. » Et il rajoute la phrase que je vous disais en intro tout à l'heure « je hais le football moderne ». C'est rare de voir des joueurs encore en activité prendre position comme ça.
Ouais, tout à fait. C'est justement pour ça que moi j'ai adoré cette interview de Thiago Alcantara par l'équipe, parce que la part d'un joueur, je trouve que ça a beaucoup plus de sens, parce qu'évidemment que ce qu'il dit, bah, on l'a déjà entendu dans des émissions, on en a déjà parlé nous aussi un peu, on sait que voilà, le football est en train de changer, etc. Mais venant de la part d'un acteur, et qui plus est en plus d'un acteur assez majeur du foot, hein, on parle quand même d'un milieu de classe mondiale, il dit des choses intéressantes, notamment sur voilà, ce que tu disais sur les 5 changements, sur l'utilisation du VAR. C'est plein de choses comme ça qui nous sommes arrivés un peu dans notre football petit à petit. Et comme l'être humain a une capacité formidable d'adaptation, ben on a des fois un peu de mal à prendre du recul et à se rendre compte des choses. En fait. Et moi, c'est en lisant cette interview, je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'il a raison, pardon pour la grossièreté, mais c'est vrai que je me suis dit, il a quand même raison sur beaucoup de choses, quoi. C'est que moi, je me suis retrouvé dans pas mal de ses propos. Quand il dit, par exemple, que le football d'aujourd'hui a pris un rythme plus rapide, plus physique, que la figure du numéro 10 a pratiquement totalement disparu. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de vrai numéro 10 comme à l'ancienne. Même dans les écoles de foot, les joueurs maintenant, ils veulent plus être numéro 10, ils veulent être 9, ils veulent marquer des buts, ils veulent voilà, vite aller en transition, etc. Il y a ce côté-là aussi d'adaptation en fait pour des joueurs comme lui qui sont un peu plus bercés par un football tiki-taka, football espagnol, comme ça rejoint aussi ce que disait Jordan tout à l'heure sur la culture espagnole. Et ces joueurs-là, en fait, ils doivent réussir à s'adapter parce que des joueurs un peu moins physiques, des profils comme ça, on en a de moins en moins qui sont forts au haut niveau. Par exemple, je pense à un Dani Parejo à Villarreal. C'est des mecs comme ça qui doivent réussir à s'adapter en fait à ce football plus physique et à briller par leur intelligence de jeu. Et c'est ce que dit très justement Thiago Alcantara. Ils disent que nous devons faire, nous les joueurs qui ne sommes pas très rapides avec nos pieds, c'est d'être plus rapides avec notre tête. Et c'est vrai parce qu'aujourd'hui, le football demande toujours plus de cardio, de puissance. Et il le dit aussi sur le développement des jeunes, que maintenant les jeunes sont de plus en plus prêts et de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont tous maintenant leur préparateur à 18, 19 ans et qu'il y a l'aspect physique maintenant qui est vraiment devenu prédominant sur le football. Et j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit un joueur qui justement témoigne de ça.
Dorian, tu n'avais pas l'air trop d'accord.
Je ne suis pas d'accord sur un point avec l'interview de Thiago, c'est sur la VAR. En fait, ça me dérange beaucoup dans le sens où il parle de roublardise, que ça va disparaître, tout ça. Je ne suis pas foncièrement d'accord avec ça parce que depuis que la VAR a intégré le football moderne, on peut en citer des centaines, des contre-exemples, notamment dernièrement avec le match contre l'Allemagne où par je ne sais quel miracle, ils évitent 3 cartons rouges. Pour des fautes assez grossières, je pense que...
Après, c'est des directives de l'UEFA qui veulent limiter la VAR pendant cet euro.
Il y a une différence entre limiter la VAR et protéger les joueurs. Là, je pense que, notamment sur l'action de Kimmich, où il met littéralement
son pied... Je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est toujours dans l'extrême. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas juste bien doser l'utilisation de la VAR.
Ça, c'est vrai. Ça. C'est un problème qu'on voit même en championnat, même en Ligue 1, on le voit. Elle est mal utilisée, mais je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que dit Thiago, dans le sens où, même à sa place... Imaginons sur un match, ils perdent parce qu'il y a eu un but sur hors-jeu ou quoi, ils vont s'en plaindre. Et avec la VAR, ça n'arrive jamais. Parce que les buts sur hors-jeu, ils sont toujours invalidés. On l'a vu contre l'Allemagne, encore une fois, avec 2 buts.
Ouais, mais ils sont parfois invalidés à cause d'un orteil qui dépasse. Ouais, avec,
c'est ça, après, si tu fais du 46, le but il est refusé. Si tu fais du 41, il est accepté. Oui. Quoi.
C'est surtout ça qui est dérangeant, je trouve. Parce que encore sur le hors-jeu et sur la goal line, moi, je peux à la limite faire un pas vers le VAR parce que ce sont quand même des éléments factuels et qui peuvent être jugés à image arrêtée. Et encore, quand on voit juste un nombre qui dépasse, c'est parfois très rageant, et on se demande parfois même s'il y a vraiment hors-jeu avec le ralenti. Mais autant sur des actions de jeu, par exemple le tacle du Mels contre la France, ou des milliards d'exemples dont on a parlé dans l'émission, c'est tellement compliqué d'analyser une action après 3 ralentis et de déjuger par rapport à ce qu'on voit sur une vitesse réelle que moi je suis d'accord. Et le débat, on l'a déjà eu des centaines de fois dans l'émission sur le VAR, et c'est clair que ça fait partie des changements dans notre foot qui l'ont quand même dénaturé.
Oui, je suis assez d'accord sur ça. Et d'ailleurs, pour... rebondir sur la règle du hors-jeu. Je pense que le problème, c'est justement qu'il faudrait la changer, cette règle du hors-jeu.
Ah ouais.
et que ça passe par... parce que là, c'est vraiment une partie du corps qui dépasse. Je pense que ça serait vraiment plus intelligent, que ce soit plus la ligne de corps ou le pied d'appui, ou je sais pas.
Oui, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des propositions de changement qui sont faites assez souvent sur les règles, etc. C'est vrai que ça pourrait éventuellement aller dans le sens d'acceptation de la VAR, d'essayer de changer les règles. Après, il faut voir évidemment ce qui est proposé, quoi.
Pour revenir rapidement sur l'interview de Thiago, je pense que en fait, tout simplement, le football est à l'image du monde, c'est-à-dire le progressisme, toujours plus dans la performance, toujours plus dans l'intensité, et moins dans la magie, moins dans la beauté, moins dans le beau. Et on en avait parlé avec Johan dans une émission précédente, je m'en souviens, où on disait que Mbappé et Haaland étaient parfaitement le prototype de joueur parfait pour le football moderne. C'est ce que dénonce Thiago, et personnellement je hais aussi le football moderne.
Plus personne n'a rajouté sur l'interview de Thiago.
Non, je pense qu'on est bon.
On va revenir sur l'Euro ce soir dans 19 minutes exactement, coup d'envoi des deux matchs du groupe B entre la Finlande et la Belgique et entre la Russie et le Danemark, les compositions qui sont tombées. On va commencer par celle du match entre la Russie et le Danemark, juste le temps que je les retrouve. Elles sont là. Du côté russe, c'est un 3-4-3 avec Safonov dans les buts, Diveyev, Dzikia et Kudryashov en défense, les deux pistons Fernandez à droite, Kouziaïev à gauche, Ozdoev, Zobnin, les deux relayeurs et les trois attaquants Mirantchuk et Golovin en soutien de Dziuba, le capitaine. Côté tchèque, c'est Kasper Schmeichel qui est aligné dans les buts, la défense à 3 avec Vestergaard, le capitaine Simon Kjær et Christensen, les quatre milieux avec Mel à gauche, Vass à droite, Delaney, Aubierg dans l'axe, Damsgaard à gauche, Braithwaite à droite et Youssouf Poulsen dans l'axe. Du côté du match entre la Finlande et la Belgique, on va commencer par les Finlandais avec Radeki dans les buts, défense à 3 également avec Toivio, Aradjuri et O'Shaughnessy. Les deux pistons avec Raitala à droite, Uronen à gauche, trois milieux Sparv, Lod, Kamara et en attaque Poyan Palo associé à Pukki. Et côté belge, un 3-4-3 également avec Thibaut Courtois dans les buts, la défense à 3 avec Thomas Vermaelen, capitaine, Jason Denayer et Boyata. Deux pistons, Nasser Chadli à gauche et Trossard à droite, Axel Witsel et Kevin De Bruyne en relayeur et les trois attaquants, Eden Hazard à gauche, Doku à droite et Lukaku dans l'axe. Je voudrais qu'on s'arrête deux secondes sur cette équipe de Belgique qu'on n'a pas trop cité non plus tout à l'heure quand on en a parlé des favoris. Cette équipe de Belgique qui a eu beaucoup de mal depuis le début de cet Euro, j'ai presque envie de dire heureusement qu'ils ont Kevin De Bruyne.
Non. Heureusement, et j'espère qu'ils vont aller loin parce qu'ils ont une génération dorée. C'est pas sûr qu'ils aient la même dans les prochaines années. Hein, c'est un tout petit pays. Donc, au vu de la force offensive de Lukaku, de De Bruyne, même de Hazard, qui peut refaire un bon Euro pour bien relancer sa carrière, j'espère qu'ils vont leur porter bonheur.
Ouais, comme dit Jordan, c'est vrai qu'ils ont une super génération. Après, moi, je vais avouer que je les ai pas vus jouer depuis le début de l'Euro, donc je pourrais pas être très. Très factuel sur leur jeu. En tout cas, oui, c'est sûr qu'ils ont une belle génération. Moi, je veux juste revenir sur un petit truc. Bon, ça concerne la Belgique, mais pas que. Et ça rejoint aussi le débat qu'on avait avant sur Thiago. C'est qu'on, sur cet Euro, on a énormément d'équipes qui jouent sur les défenses à 3.
Bah, là, en fait, si vous voulez, en donnant les compos, je m'en suis rendu compte aussi. Voilà, les 4 compos que j'ai cités, c'est 4 défenses à 3.
En les écoutant, je me suis fait la remarque aussi. Et ça rejoint aussi beaucoup d'autres nations. Et ça rejoint aussi ce fait de football moderne, un peu plus physique, avec maintenant des axios et des pistons qui vont être capables de faire les allers-retours. Et c'est un système qui marche très très bien, je trouve, dans ce football moderne, entre guillemets. Et je pense, et c'est même une conviction, je pense que l'équipe de France devrait essayer de moduler son jeu avec un système à 3, et je pense qu'on aurait les profils pour être bon. Malheureusement, ça n'arrivera sûrement jamais tant Deschamps est conservateur dans ses idées et dans ses systèmes, mais c'est vraiment, c'est pas anodin, je trouve, de voir autant de défenses à 3 dans tout l'Euro, en tout cas.
Mais c'est peut-être ça, le football moderne.
Ben, je pense que c'est beaucoup lié à justement ce que demande le jeu en termes de capacité physique, ces schémas tactiques de défense à 3 qui peuvent autant jouer bas et se transformer à 5 que se transformer à 3 en phase offensive. C'est vraiment dans la lignée de ce qu'on voit depuis des années dans le foot. Quoi.
Dorian, sur cette équipe de Belgique ?
Ben, je vais te rejoindre sur le fait que heureusement qu'ils ont De Bruyne, quoi, parce qu'il leur sauve, il me semble, le premier match. Il rentre, il débloque tout. Donc il nous fait du De Bruyne comme il a fait cette saison avec City. Après, Hazard, le peu qu'il a joué, je ne l'ai pas trouvé non plus percutant. Ça rejoint aussi ce qu'il a fait cette saison, même s'il a été blessé très longtemps. Et oui, dans l'ensemble, le contenu n'était pas parfait, on va dire. Ils ont encore des grosses lacunes, notamment avec les transitions éternelles vers l'attaque.
La défense me fait un peu peur, moi. Bon,
ça va, je ne l'ai pas trouvé si mauvaise que
parce
ça.
Offensivement, ils ont quand même une force de frappe qui est incroyable, et surtout avec un Lukaku qui est là, sûrement dans ses meilleures années, même dans la meilleure saison de sa carrière jusque-là. En plus, on sait qu'ils ont notre Titi Henry National en entraîneur des attaquants qui, à mon avis, doit pas lui faire de mal à Romelu. Moi, j'attends de voir un peu défensivement parce que bon, là, voilà, je me suis uniquement à la compo, mais il y a Denayer qui a fait une belle saison avec Lyon, mais qui n'est pas non plus un défenseur de classe mondiale. Et à côté, voilà, j'ai entendu le nom de Thomas Vermaelen, ça m'a un peu foutu des frissons dans le dos parce que ça fait un moment qu'il joue. Et quand ils vont arriver, voilà, c'est encore et toujours ce qu'on dit, mais quand ils vont arriver contre une équipe avec un peu plus de danger à leur maître, ben voilà, il va falloir assurer de ce point de vue-là. Ouais.
On verra le test en huitième ou en quart directement, je pense.
On va quitter cet Euro et on va passer maintenant à l'actu en bref. Jingle. L'actu en bref, on va commencer par les transferts qui agitent le monde du football en ce moment. On va commencer par un joueur qui a joué tout à l'heure avec les Pays-Bas, Memphis Depay, qui, on le savait, a quitté l'Olympique lyonnais et qui s'est engagé avec le FC Barcelone, comme ça courait depuis quelques semaines. Est-ce que c'est un bon choix pour lui ?
Pour lui, oui.
Pour Memphis, oui.
Voilà, c'est le sens d'accord. de ma question.
Pour le Barça, je ne sais pas. Pour le Barça, je ne sais pas, parce qu'ils ont déjà Messi, ils ont déjà Griezmann dans à peu près le même poste.
Aguero.
Je pense qu'il y avait d'autres postes à en priorité. Après, il me semble qu'il lui restait un an de contrat, donc ça reste une bonne affaire. Il sera toujours intéressant, ça reste un très bon joueur.
Il a signé pour 2 ans, il me semble, si ouais. je ne dis pas de bêtises.
Oui, mais il lui restait 1 an à Lyon, non ?
Ouais.
Pour les négociations, c'est mieux. C'est plus...
Il est parti libre.
Encore plus.
Parce qu'en tout cas, il est arrivé libre à Barcelone.
Il n'y a pas d'indemnité, donc non, il est parti libre de Lyon et il a signé pour 2 ans. Pour le joueur, évidemment que c'est une aubaine incroyable parce que bah, quand on regarde un peu la carrière de Memphis, c'est parti très très vite, très très haut à United et ça n'a pas marché. Un très bon choix de carrière pour lui d'être venu à Lyon pour se relancer. Il l'a fait comme il a montré tout le joueur talentueux qu'il était. Et maintenant, bah, il arrive à avoir une opportunité dans un des plus grands clubs du monde. Donc forcément, en plus de jouer avec des joueurs de classe mondiale, etc., c'est vraiment un bon choix pour Memphis. Et pour le Barça, je rejoins ce que dit Jordan, moi je ne comprends pas. Alors qu'évidemment, quand on va me dire qu'aller chercher Depay libre, c'est forcément un bon coup parce que bah, ça reste un très bon joueur et je pense qu'il arrivera quand même à faire de bons matchs et à s'intégrer. Mais en termes de profil, j'ai beaucoup de mal à imaginer Griezmann et Messi et Depay ensemble sur le terrain. On l'a vu cette saison, le Barça, le vrai manque du Barça cette saison, c'était quand même un joueur de surface, un joueur de fixation. Que Agüero peut-être être, mais sur la durée d'une saison, physiquement, j'ai du mal à voir Agüero titulaire indiscutable sur toute une saison au Barça. Donc le recrutement d'Agüero est une bonne chose parce qu'il y a quand même un œuf de surface dont le Barça manquait, celui de Depay. S'il n'y a pas un départ de Griezmann, je n'arrive pas à vraiment imaginer les trois évoluer ensemble. Alors Depay peut peut-être évoluer sur un côté, il l'a déjà fait, mais là il vient de faire la meilleure saison de sa carrière en 9,5. Sachant que tu arrives au Barça, il y a le meilleur 9,5 de l'histoire du foot qui joue. Et il y a en plus Griezmann qui aime bien chasser les mêmes zones du terrain. Je ne sais pas, franchement à voir ce que ça peut donner. Mais pour l'instant en termes de profil, je ne trouve pas ça super compatible.
Un autre Néerlandais qui a joué aussi, qui a inscrit un doublé contre la Macédoine du Nord tout à l'heure, c'est Jorginho Wijnaldum qui lui quitte Liverpool pour s'engager avec le Paris Saint-Germain. Quand on voit ce qu'il est en train de faire à l'Euro Wijnaldum, on se dit que c'est la bonne pioche côté parisien.
Ah ben c'est la meilleure recrue possible pour Paris. C'est vraiment le secteur de jeu où ils avaient le plus de lacunes. Là, franchement, un récupérateur et un box-to-box comme Wijnaldum associé à Marco Verratti, ça peut faire des ravages.
Dorian ?
Sur le papier, c'est toujours bien d'avoir un joueur comme ça. Après, est-ce que Paris va vraiment bien l'exploiter ? Je ne sais pas, on le verra bien cette saison. Mais j'espère qu'en tout cas, c'est un très bon choix de carrière pour lui. Et j'espère qu'il le prouvera et que ça pourra leur permettre peut-être de décrocher leur première Ligue des Champions.
Ouais, c'est vrai que sur ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que Wijnaldum, même là à Liverpool et là en sélection, il joue quand même dans un milieu à 3. Donc à voir, parce que Pochettino, cette saison, a mis en place un 4-2-3-1 avec donc un double pivot. Donc à voir si Wijnaldum pourrait être complémentaire avec Verratti aussi sous cette formation. Mais en tout cas, oui, comme disait Jordan, en termes de profil, là, c'est vraiment ce qu'il fallait. Et je ne pense pas que le PSG aurait pu aller chercher mieux, en plus libre, sur le marché. En plus, là, voilà, il marche très bien avec les Pays-Bas, donc ça réconforte aussi les supporters parisiens sur le fait que ce soit quand même un bon joueur, parce qu'il a fait une bonne saison, mais pas non plus une saison phénoménale du côté de Liverpool. On sait le talent qu'il a, et je pense que ce genre de joueur était un peu la pièce manquante au PSG, qui a eu du mal un peu dans ce secteur, surtout avec les absences de Verratti.
Même mieux, ça peut enfin être l'année de Verratti. Avoir un Wijnaldum à côté, ça change le jeu de l'équipe, et ça change aussi inévitablement le jeu de Verratti, donc à voir.
Encore faut-il qu'il joue.
Oui, il faut qu'il joue. Et un autre chantier.
Un autre joueur qui est arrivé libre au Paris Saint-Germain, cette fois-ci au poste de gardien de but, c'est Gianluigi Donnarumma qui a passé sa visite médicale aujourd'hui pour s'engager avec le Paris Saint-Germain et qui sera donc en concurrence avec Keylor Navas. Pourquoi le Paris Saint-Germain a été chercher Donnarumma ?
C'est la grande question qu'on se pose tous, je pense, parce que Keylor Navas vient de sortir sûrement la meilleure saison de sa carrière au PSG et vient de faire une saison incroyable. Alors pourquoi venir lui mettre dans les pattes un Donnarumma qui ne viendra sûrement pas pour être numéro 2 ?
Surtout qu'on sait qu'au Real Madrid, quand Keylor Navas a vu arriver Thibaut Courtois, c'est comme ça qu'il est parti à Paris.
C'est ça, c'est que on a déjà vu ce fonctionnement marcher, notamment je pense au Barça avec Ter Stegen et Bravo, où il y en avait un qui jouait la Ligue des Champions, l'autre le championnat. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça suffira ni à l'un ni à l'autre en termes de temps de jeu. Donnarumma est un gardien international, jeune, l'un des meilleurs gardiens du monde et sûrement l'un des plus prometteurs. Donc, c'est impensable qu'il vienne pour être la doubleur de Navas. Donc là, franchement, OK, il est libre. OK, voilà, Donnarumma libre, ça reste, c'est comme pour deux pas. Ça reste un bon coup parce que c'est gratuit. Et encore, il y a les indemnités de salaire, etc.
On parle de 10 millions par an.
Voilà, il y a aussi... Mais là, moi, je vois la seule explication que je peux voir, moi, c'est encore une fois le travail malin, si ce n'est mesquin, de Raiola avec Leonardo, qui a réussi à placer son joueur et à prendre sa commission, quoi. Parce que sinon, je ne vois aucun intérêt sportif.
Bah, j'espère qu'ils ne veulent pas donner le même rôle que Buffon avait eu à Paris à Navas, parce qu'on a bien vu que ça leur a coûté l'élimination contre Manchester. Et que Areola n'avait pas forcément progressé énormément.
Parce qu'en termes de timing...
Là, on a deux gardiens au top niveau.
Voilà, c'est le problème en fait, qui vient quand il y a eu ce transfert, c'est que Navas est dans la meilleure saison de sa carrière. Parce que si encore le transfert arrive et que Navas vient de faire une saison un peu moyenne, etc., où on se dit que c'est pour préparer l'avenir, etc. Mais ce transfert-là, un an ou deux ans, c'est un bon transfert. Parce que Donnarumma est plus jeune, parce que pour préparer l'avenir, parce que Navas n'a pas non plus 20 ans, etc. Ok, mais là, avec la saison que Navas vient de faire, c'est, enfin là, enfin voilà, vraiment, c'est un
recul. Tu l'as pris justement pour son expérience, pour sa sérénité en Ligue des Champions.
Ouais, c'est ça.
Et
là, il y a vraiment ce côté empilement de
donc
joueurs.
Donc tu vas faire jouer Donnarumma que en Ligue 1 et en Coupe de France.
C'est, franchement, je vois pas comment ils vont faire et ça va en plus créer du drama un peu encore dans la saison du PSG, alors qu'on sait qu'ils ont vraiment pas besoin de ça.
C'est ce que j'allais dire. Paris, voilà.
Là, c'est l'art de se tirer un peu une balle dans le pied en termes de cohésion, en termes de médias, etc.
Est-ce que ce serait pas le talent de Leonardo aussi de se tirer une balle dans
un
le pied.
Un peu. Moi, je pense que Raiola, derrière tout ça, il a encore fait un très très bon coup là, parce que
c'est ça le problème dans le football moderne. on va revenir à une équipe normale entre guillemets. Les Girondins, les candidats à la reprise, ont jusqu'à ce soir pour présenter une ultime offre qui conviendra au propriétaire King Street et au principal créancier Fortress. Faute de quoi, le président du club Frédéric Longuepé déclarera la cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux demain matin, ce qui déclenchera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui enverrait très probablement le club en 4e ou 5e. Division. Je voudrais avoir votre réaction, messieurs. On parle notamment de Gérard Lopez pour reprendre le club.
J'ai vu que l'Élysée avait mis un peu.
Voilà, je l'ai vu aussi que l'Élysée suivait un petit peu le dossier de reprise aussi. Réaction.
C'est très compliqué. On va prier pour ne pas arriver jusqu'au redressement judiciaire et à la relégation administrative du
club. De toute façon, on aura la réponse très vite, a priori, demain matin.
On va prier pour ne pas en arriver là, mais le problème, c'est que si on n'arrive pas là, de ce que j'ai compris, le seul projet qui peut nous l'éviter, c'est le projet soutenu par Lopez avec l'Alliance, etc. Sauf qu'apparemment, il leur manquerait de l'oseille pour être vraiment viable et éponger la dette. Donc,
il y avait un autre
apparemment, King Street doit éponger sa dette comme il l'avait précédemment.
King Street ne prend pas ses responsabilités pour l'instant.
Alors, a priori, il y avait un autre projet aussi qui était porté par l'ancien directeur général de la Ligue, Didier Quillot, qui est le responsable quand même du fiasco Media Pro qui a fait plonger tous les clubs.
C'est qu'en fait,
donc,
là,
si on pouvait l'éviter, celui-là
le
aussi.
Le problème, c'est qu'on a des hommes peu dignes de confiance de part et d'autre, en fait. C'est ça le problème. C'est que d'un côté, moi, Lopez, il ne me rassure pas beaucoup parce que on a vu ce qu'il a fait du LOSC et on a aussi même vu là récemment l'affaire du transfert d'Osimhen qui apparemment est très 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 louche, pour ne pas dire criminel. Donc il n'y a rien de rassurant. Moi, je vais juste attendre de voir et espérer qu'on évite le redressement, mais les nouvelles ne sont pas très rassurantes pour l'instant.
Donc on vous donnera la semaine prochaine, normalement on devrait être fixé mardi prochain pour la prochaine émission, on devrait être fixé sur le sort un petit peu des Girondins, on suivra ce dossier. On va partir en Amérique du Sud avec des nouvelles de la Copa América qui se tient en ce moment au Brésil. Après deux journées, le Chili et l'Argentine sont en tête du groupe A devant le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Dans le groupe B, c'est pour l'instant le Brésil qui fait la course en tête devant la Colombie, le Pérou, le Venezuela et l'Équateur. Au programme cette nuit, Uruguay-Chili à 23h et Argentine-Paraguay à 2h du matin. Vous suivez un petit peu la Copa América, messieurs ?
Ouais, faut que je dorme.
Alors, j'ai regardé, moi, un peu le Brésil sur le match d'ouverture. J'ai trouvé ça pas mal. Après, en termes de niveau de jeu, j'ai regardé aussi un peu l'Argentine. En termes de niveau de jeu, la Copa América, alors autant c'est fantastique pour le côté ambiance, etc. Encore que cette année, c'est un peu terne. Mais en termes de niveau de jeu, j'ai toujours trouvé ça aussi fascinant que faible.
Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi.
C'est parce que c'est vraiment du football courage, quoi. On sent qu'il y a vraiment une animosité un peu sud-américaine et que les mecs, vraiment, ils y vont pour faire la guerre. Mais techniquement, ça n'a rien de structuré par rapport au football qu'on peut voir en Europe. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Ah mais le Brésil est pour l'instant l'équipe, je pense, qui me paraît assez le mieux armée. Parce que l'Argentine, voilà, Messi, c'est Messi. Mais encore une fois, autour, ça ne fonctionne pas, quoi.
Alors, je l'évoquais très brièvement tout à l'heure quand on parlait des Girondins et de Didier Quillot. Rappelez-vous, c'était le tout premier débat de l'histoire de Football Total. C'était à l'époque du fiasco Media Pro. Mmh. C'était les droits télé. Et ben, on sait qui va diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 pour les trois prochaines saisons. C'est Amazon qui diffusera 8 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Canal+, 2 matchs de chaque. Mais a signifié son intention de se retirer. Je pense qu'il faudrait contacter Netflix et faire une série sur les droits télé. Clairement. Parce que là, c'est au-delà des espérances. Là.
Dans tous les cas, Canal+ perd son match de 21h le dimanche.
Alors, en fait, c'est plus une question d'horaire. C'est une question de choix.
D'accord.
En fait, ça va être Amazon qui va avoir... Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais tant de premier choix, tant de deuxième choix, tant de troisième choix. Avant, c'était... telle chaîne a le samedi 17h, ouais. Le dimanche 21h, et telle chaîne a le vendredi, le samedi, le dimanche. Là, maintenant, c'est une question de choix. Donc, on n'aura pas forcément les matchs aux mêmes heures sur les mêmes chaînes tous les week-ends.
Mais les choix, ils peuvent changer au cours de la saison.
Oui, ce sera en fonction de la programmation de la Ligue, journées, en fait.
Ouais. Ok, tout n'est pas joué avant la saison encore.
Non. Non, ils ne savent pas quel match. Ils savent après quel match, suivant comment ça tombe, mais ce sera en fonction de la programmation de la Ligue.
Les calendriers ne sont pas encore sortis, etc. Donc,
de toute façon, les calendriers des journées, en général, ils sortent 3-4 semaines avant. Hein.
Mais souvenez-vous, d'ailleurs, pendant ce premier débat qu'on avait vu, on avait déjà eu l'éventualité d'Amazon qui pourrait venir reprendre la Ligue 1, notamment on avait parlé d'un format un peu plus numérique.
Du pay-per-view, etc. On avait évoqué Amazon et DAZN aussi, je crois.
Voilà, c'est ça. Donc maintenant, Amazon là, maintenant, il faut voir ce qu'ils en font. C'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça d'un point de vue offre.
Et d'un point de vue bancaire.
J'ai bien aimé Roland-Garros.
C'est ce que j'allais dire.
Amazon.
La couverture de Roland-Garros était plutôt intéressante.
La couverture était intéressante, même si évidemment le choix du tournoi de se tourner vers Amazon pour des matchs comme ça était discutable, mais en tout cas d'un point de vue uniquement couverture de la part d'Amazon, c'était efficace et j'ai bien aimé aussi du peu que j'en ai vu. Donc à voir ce qu'ils vont proposer, moi j'attends un truc assez innovant en tout cas de la part d'Amazon pour la diffusion.
On passe au quiz, Johan, tant que tu as la parole. Jingle.
C'est parti, on envoie un petit jingle. Hop, messieurs, on est parti donc pour ce quiz que j'aurai l'honneur de vous faire ce soir. Alors, on va tourner ce quiz, évidemment, autour de l'actu, hein, cet Euro 2020, qu'on appelle Euro 2020, alors qu'il se joue en 2021. Tout le quiz va donc tourner autour de l'Euro, donc j'espère que vous avez été bien attentifs à tout ce qui s'est passé depuis le début de la compétition. Je vais commencer avec trois petites questions un peu en vrac, donc on va faire un peu le système qu'on avait fait pendant la spéciale quiz où vous me donnez votre nom pour...
Que tu as gagné.
Que j'ai gagné, évidemment. Merci de le rappeler, Vincent. Voilà, vous me donnez votre nom, ça fait office de buzzer. Le premier qui a la main répond. On va commencer avec une petite question. Quel est le tout premier buteur de 7 euros, messieurs? Attention, il y a un piège.
J'ai pas son nom, putain.
Alors, petit indice, c'est un joueur turc contre son camp. C'est un défenseur turc.
Je me rappelle plus du nom.
Moi non plus.
Alors, c'est un défenseur turc qui évolue dans un grand club européen. En Italie.
Alors là.
À la Juve, vous ne l'avez pas, monsieur. Bon, on va laisser tomber pour cette question.
Défenseur turc,
il s'agirait de Merih Demiral.
Je l'avais pas du tout.
Défenseur de la Juve. Premier buteur de 7 euros, sinon juste après.
Déjà, il m'a fallu 30 secondes pour me rappeler que c'était le premier match.
Oui. Attention, il va falloir être pointu sur ce quiz, messieurs. J'attendais pas une chute dès la première question. Hein. Allez, prochaine question, messieurs. N'oubliez pas de donner votre nom pour avoir la main. À ce jour, quels sont les deux seuls 0-0 de la compétition? Il y en a un qui était il n'y a pas si longtemps.
Il y en a un qu'on a cité tout à l'heure aussi, oui.
Jordan, Espagne.
Espagne-Suède, c'est bon. Un seul, le deuxième. Il impliquait aussi une équipe favorite.
Angleterre-Écosse.
Oui. Bonne réponse de Vincent. On va partager les points, du coup, sur cette question. Et dernière question, enfin. Dans combien de pays différents se déroule cette Euro?
Jordan.
8.
Mauvaise réponse.
Vincent. 11.
Mauvaise réponse.
Bah, je sais pas, je vais tenter 7.
Mauvaise réponse, messieurs, c'était 12 pays. Vincent était à un pays près d'avoir la bonne réponse. On va ensuite passer donc à une composition d'équipe, donc un classique, des quiz de football total. Messieurs, Angleterre-Croatie, 1-0 pour les Anglais. La composition de l'équipe de Gareth Southgate, Jordan. S'il vous plaît. Jordan.
Pickford.
Pickford, c'est bon.
Sterling.
Sterling, c'est bon.
Kane.
Kane, c'est bon.
Mount.
Mount, c'est bon. C'est un 4-3-3.
Il y avait Mount avec le gars de Chelsea. Comment il s'appelle ?
Vous pouvez intervenir pour l'aider si jamais.
Rashford.
Rashford sur le banc.
Chilwell.
Chilwell sur le banc. C'était le petit piège de cette compo. Gareth Southgate nous a sorti un défenseur droit latéral gauche. Alors, vous m'avez donné Pickford, Mount, Sterling et Kane, il me semble.
Luke Shaw.
Luke Shaw, non. Il me manque donc les 4 de derrière, 2 milieux de terrain et un attaquant.
Trippier.
Trippier, c'est bon. C'était lui qui était défenseur gauche. Il manque 3 défenseurs, 2 milieux de terrain et un attaquant.
Walker.
Stone, c'est bon. Walker, c'est bon. Il vous manque un central. Vous avez pratiquement toute la défense.
Maguire.
Non, Maguire, c'est pas bon. C'est un central qui n'est pas très connu, qui joue en Première Ligue à Aston Villa.
C'est pas.
Qui a fait un bon match d'ailleurs.
Ride ou.
Non. En attaque, vous pouvez trouver également. Il vous manque le troisième attaquant, messieurs.
Sancho.
Non.
Non, non, Sancho, justement, il n'a pas joué du tout pendant l'Euro.
Paré d'une belle teinture blonde au cours d'envoi du match. Oui. Phil Foden.
Je dirais Michou.
Il va vous manquer du coup le deuxième central et ainsi que deux milieux de terrain qui ne sont pas forcément des joueurs très connus, mais notamment un d'entre eux qui a fait un superbe match.
Oui.
Un d'entre eux qui a été passeur décisif d'ailleurs.
Oui, mais je me rappelle plus son
nom. La Croatie sur le but de Sterling. Allez, je vais vous laisser encore 5 secondes pour essayer de retrouver au moins un des derniers.
C'est perdu, je pense.
Ouais.
3, 2, 1. Il s'agissait donc en défense centrale de Tyone Mings, défenseur d'Aston Villa, et au milieu de terrain Declan Rice. Et enfin, messieurs, Calvin Phillips,
Calvin
quand même.
Phillips.
Ça me déçoit de votre part, en plus, ce fantastique milieu de terrain de Leeds United qui a été si brillant. On va enchaîner, messieurs. Pour l'instant, ce n'est pas brillant. Hein. Il va falloir essayer de se rattraper un peu. En plus, là, on arrive sur des enchères. Donc, pas cadeau non plus. Messieurs, donc chacun votre tour. Hein, je rappelle les règles. Vous me donnez, je vais vous donner. Voilà, j'ai une liste sous les yeux de joueurs. Vous allez devoir m'en donner un chacun votre tour. Celui qui ne trouve pas est éliminé. Et le dernier encore debout est vainqueur, bien entendu. Messieurs, ces enchères vont concerner les buteurs de l'Euro, mais uniquement sur la première journée. Chacun votre tour. Vous allez devoir me citer un joueur qui a marqué un but sur la première journée de l'Euro.
On commence par qui ?
Bon, Dorian, tu es à ma gauche, donc c'est à toi l'honneur.
Bah, Ronaldo.
Ronaldo, c'est bon.
Locatelli.
Locatelli, ce n'est pas bon. Premier match de l'Italie, Turquie-Italie, Demiral, Immobilier, Insigne, 3-0. Locatelli n'a pas marqué. Vincent est déjà éliminé.
Hummels.
Hummels, CSC, c'est bon. Bien joué.
Après, c'est triché, mais tu viens de le dire, Immobilier.
Immobilier, c'est bon. Non, il a été malin, il a été malin.
Oui.
Chiesa.
Chiesa, c'est pas bon, Dorian. Tu gagnes, alors qu'il nous restait quand même beaucoup de joueurs. Après, il y en avait qui étaient compliqués, mais il y avait notamment en connu du Cristiano, du Sterling, du Lukaku... du Guerrero aussi éventuellement, mais c'était pas forcément évident. Messieurs, on va terminer avec un qui suis-je. C'est parti. Je suis né le 17 juillet 1994. Je ne vous donne pas intentionnellement la nation de ce joueur parce que sinon ça aurait été un peu trop simple. Je fais mes débuts en pro à l'âge de 16 ans en division 3 dans le club de ma ville natale. Je suis ensuite repéré par le Benfica Lisbonne qui me signe en 2012. Je commence avec la réserve avant finalement profiter d'une blessure pour m'imposer et signer à Manchester United en 2017 pour la somme de 35 millions d'euros. Titulaire indiscutable et faisant partie des gros noms entre guillemets de ma sélection.
Vincent.
Oui.
Bruno Fernandes.
Mauvaise réponse. Donc titulaire indiscutable et faisant partie des gros noms entre guillemets de ma sélection, je participe actuellement à l'Euro 2020. Ma sélection ne brille pas pour autant pour son jeu flamboyant mais obtient des résultats au tel point d'être première de son groupe à la surprise générale à l'heure où je vous parle. Solide défenseur central, je suis également le compatriote d'un très grand joueur, autant par la taille que par le talent. Non, pas Rubén Dias, malheureusement absent de l'Euro pour blessure. Mon équipe évolue dans le groupe de l'Espagne et de la Pologne. Je suis, messieurs, un défenseur central suédois qui joue aujourd'hui à Manchester United.
Jordan.
Daley Blind.
Jordan.
Lindelof.
Victor Lindelof. Très bonne réponse de Jordan.
Suédois, Daley Blind, Dorian.
On l'a pas entendu, on laisse passer. Et voilà pour ce quiz spécial Euro 2020, messieurs. Je vous attends plus en forme pour le prochain.
On va passer à la dernière séquence de cette émission, la désormais célèbre séance de pronostics. Jingle. Alors là, du fait que l'équipe change régulièrement, etc., on va abandonner le classement général juste pour l'Euro. Ça sera au jour le jour. Ça sera au jour le jour. On verra ça la saison prochaine. Trois pronostics à vous proposer ce soir. Alors, demain soir, match entre la République tchèque et l'Angleterre, Jordan.
Ah, c'est traître ça, parce que c'est...
Match nul.
C'est les derniers matchs de journée comme ça, c'est compliqué. Hein.
Johan.
Allez, je vais mettre les Anglais quand même, mais pas glorieux.
Dorian.
Les Anglais.
Mercredi soir, Suède-Pologne. Dorian.
Pologne.
Johan.
Match nul.
Jordan.
Pologne.
Et enfin, vous n'allez pas y couper, Portugal-France. Johan.
France.
Jordan.
France.
Dorian.
France.
Rémi n'est pas là, hein, parce qu'on imagine déjà
là,
son
c'est
pronostic.
Ça. On va se quitter là-dessus. Quelques rendez-vous à vous donner. Déjà, pour ma part, je vous retrouve mercredi matin avec toute l'équipe de Carte Blanche dès 6h30. Nous, pour Football Total, on va se retrouver mardi prochain avec une émission un peu particulière, puisque pour une fois, ce ne sera pas qu'une émission de mecs. Deux voix féminines vont nous accompagner mardi prochain pour la première fois. Ça va faire du bien. Et donc, ce sera mardi prochain, 19h, donc à mercredi pour Carte Blanche et à mardi prochain, 19h pour Football Total. Passez une excellente soirée à tous. Salut.